Roumanie, voici nos informations en français.
18h à Bamako, vous écoutez Studio Tamani à la une de cette édition. La peine de mort a été prononcée hier contre l'assassin de l'imam Abdelaziz Yatabaré. Si les proches de la victime se disent soulagés par cette décision, les défenseurs des droits de l'homme se battent pour l'abolition de la peine de mort au Mali. L'Office central des stupéfiants de Gao a arrêté lundi un jeune en possession de 800 comprimés de tramadol au 4e quartier. Selon le service local des stupéfiants, son fournisseur serait un Nigérien. Plus d'une vingtaine de correspondants de Studio Tamani renforcent leur capacité dans la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali. Cette deuxième phase de formation est organisée par le DECAF. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Bonsoir à tous et bienvenue. L'assassin de l'imam Abdelaziz Yatabaré, ancien vice-président du Haut Conseil islamique, a été condamné à la peine de mort hier à Bamako. Le procès s'est déroulé devant la cour d'assises. Les proches de la victime, venus nombreux au jugement, se disent soulagés par la décision. Cependant, ce verdict est prononcé alors que des défenseurs des droits de l'homme se battent pour l'abolition de la peine capitale au Mali. Intala Akbilal.
Le jugement n'aura duré que quelques heures. Moussa Guindo, accusé d'avoir assassiné l'imam Yatabaré, a été rapidement fixé sur son sort. La cour lui a requis la peine de mort, à la grande satisfaction des proches de la victime et de nombreux fidèles venus assister au procès. Ils étaient des centaines de femmes et d'hommes à prendre d'assaut la salle d'audience et la devanture de la cour d'appel où s'est tenu le jugement. Les proches et soutiens de l'imam assassiné réclamaient la peine de mort pour l'assassin. Certains scandaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, d'autres que justice soit dite pour la gloire de Dieu. Une centaine de policiers et militaires a été mobilisée pour sécuriser le tribunal et éviter les débordements. Interpellé à la barre, l'accusé Moussa Guindo reconnaît avoir assassiné l'imam Abdelaziz Yatabaré le 19 janvier dernier, alors que ce dernier se rendait à la mosquée. Pour l'un de ses avocats, il a été établi que l'accusé n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales. Mais malgré cet argument, le verdict tombe. Moussa Guindo est condamné à mort pour assassinat. Une partie de la salle crie victoire et des responsables d'associations musulmanes présents réclament l'application stricte de la sentence. Il faut rappeler qu'au Mali, la peine de mort n'est pas abolie. Cependant, un moratoire décrété fait qu'elle n'est pas appliquée depuis de nombreuses années.
De nombreux fidèles musulmans, mais aussi des dignitaires religieux, ont fait le déplacement pour assister au jugement. Dans la salle d'audience ou au dehors, ceux-ci réclamaient la peine de mort pour l'accusé. De telles mobilisations peut-elle influencer les décisions sur la question? Écoutons l'analyse de Maître Chakoumar Kounari.
La cour d'assises est composée de 7 juges, 3 magistrats professionnels et 4 juges occasionnels qui ne sont pas des magistrats. Ce sont des citoyens ordinaires tirés au sort, mais qui sont majoritaires au moment de rendre la décision. Donc, il est normal qu'en tant que simple citoyen, on puisse être impressionné par l'assassinat d'un imam, surtout lorsqu'on est musulman. Il est également possible d'être impressionné ou influencé par la mobilisation de ces pères musulmans. De toutes les façons, ce que la loi prévoit en matière d'assassinat, c'est cette peine-là qui a été infligée. Quiconque tue avec préméditation commet un assassinat. Et tout assassinat est puni par la peine de mort.
Et des associations de défense des droits humains déplorent que ce verdict soit prononcé. Le Mali étant signataire des textes internationaux abolissant la peine de mort, ses défenseurs des droits de l'homme souhaitent que cette peine soit commuée en prison à perpétuité. Écoutons Ramata Guissé, directrice exécutive d'Amnesty International Mali.
On peut se déplorer, en tout cas, le fait même que cette condamnation a été prononcée, mais cela va de soi parce que nous sommes dans un pays fortement islamisé. Donc, depuis l'assassinat de cet imam, on a vu une vague de protestations et d'indignation de la part des religieux qui ont même demandé le rétablissement de la peine de mort. Ce qui est sûr, le Mali est signataire de tous les textes internationaux qui favorisent l'abolition de la peine de mort, qui interdisent même l'application de la peine de mort. Donc, compte tenu de ce état de fait, nous, on ne dit pas que les tribunaux, on ne peut pas les empêcher de prononcer. Mais quant à l'exécution, maintenant, nous lançons un appel à leur endroit pour leur dire, en tout cas, de communier ces condamnations à mort à des peines de prison à perpétuité.
Retrouvez toutes ces informations sur la page Facebook, le compte Twitter de Studio Tamani, mais aussi sur WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Le bilan de l'attaque de ce lundi survenue à Tabankort s'est alourdi. Une trentaine de soldats maliens sont tombés au cours de cette attaque conjointe dénommée Tango Tango dans la zone de Tabankort, région de Menaka, qui a pour objectif de contenir les groupes terroristes. Nous restons dans le nord du pays. Le service des stupéfiants de Gao a arrêté ce lundi un jeune qui détenait 800 comprimés de tramadol au 4e quartier. Son fournisseur serait un Nigérien, affirme le capitaine Ismaël Touré du service local des stupéfiants. Au moins 5 autres cas ont été récemment enregistrés par le service. Cependant, il déplore le manque de collaboration des populations. Ismaël Touré est joint par Ousmane Diko.
On a trouvé sur lui 800 comprimés de tramadol de sang. Celui qu'on a arrêté, c'est un Malien. Mais son fournisseur, c'est un Nigérien. Bien avant cela, du 1er novembre à maintenant, nous avons à peu près 5 arrestations. C'est des tramadol du chambre indien. Puis un peu de diazépam, de ribotril. En 2016, le tramadol était à 50 francs le comprimé. Aujourd'hui, il est à 500 francs. Au moment où je te parle, il y a une grande rupture au niveau de Gao. En dehors de la ville de Gao, tous les villages environnants sont affectés de ça. Aujourd'hui, compte tenu du travail effectué par les services nigériens, maliens, au niveau des frontières, ça rentre très très difficilement. Et le peu qui rentre actuellement aussi, ça rentre un peu par le Niger et même par Bamako, ça rentre. La grande difficulté d'abord, c'est les effectifs. Il y a un problème de manque là. Et puis, un problème de manque de coopération. Et pourtant, les jeunes crient tous les jours, créent des associations de lutte contre la drogue. Mais ces jeunes ne viennent jamais vers nous. On n'est pas aidé par cette jeunesse.
Autre sujet, 51 personnes membres du mouvement Debout sur les remparts se réclamant au nom des héritiers de Modibo Keïta se sont retrouvés hier à Kao, à Koulikoro. C'était à l'occasion du 51e anniversaire de l'arrestation du premier président Modibo Keïta. L'objectif de cette mobilisation est d'élargir la réflexion autour de l'héritage du père de l'indépendance. Modibo Ben Diarra, porte-parole du mouvement, est au micro de Zoumana Naïté, notre correspondant à Koulikoro.
On a lancé l'appel de Kayo pour reprendre le flambeau de Modibo, parce que les Modibo se sont battus pour la liberté de l'Afrique et la libération du peuple africain de manière générale et de manière particulière celle du Mali. Donc c'est pour cela que nous constatons que notre pays est annexé aujourd'hui en ses trois quarts. Donc si nous nous réclamons héritier de Modibo Keïta, il est de notre mission prioritaire de nous engager pour que nous puissions avoir un pays entier, stable et prospère. Donc c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ce matin à Koulikoro pour un atelier d'échange qui portera sur la mobilisation du 10 janvier 2020 qui va coïncider avec les 7 ans de l'intervention française au Mali et 1 million de Maliens dans la rue pour exiger que notre pays soit stabilisé, que notre peuple soit libéré.
Je vous l'annonçais dans les titres. La deuxième phase de l'atelier de formation des correspondants de Studio Tamani organisée par DECAF a débuté ce matin à la Maison de la Presse de Bamako. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des médias dans la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali. Un reportage de Aïssata Diarra.
26 correspondants des studios Tamani venus de l'intérieur du pays participent à cet atelier. L'objectif est de renforcer leurs capacités sur la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali. Boubacar Tera, chargé du programme de DECAF.
L'initiative est née d'un partenariat avec le studio Tamani et comment être apte à mieux diffuser de bonnes informations aux citoyens.
Selon le commandant du commissariat à la réforme du secteur de sécurité, Aliou Ibrahima Silla, le renforcement des capacités des forces de sécurité et des médias est nécessaire pour une bonne collaboration.
Aucune porte des structures chargées de la fourniture et de la gestion des questions sécuritaires qui est fermée aux médias. Il faudrait que le journaliste sache que quel est son rôle au niveau de l'effort de défense de sécurité ou que leur capacité soit renforcée en matière de protection de ces journalistes.
Le rôle à jouer pour les journalistes pour une bonne gouvernance est essentiel, affirme Martin Faye, représentant de la Fondation Hirondelle. Selon lui, c'est ce qu'a compris le DECAF et c'est à quoi travaille le studio Tamani.
Vérifier qu'il y a effectivement des actes qui mènent à la gouvernance. Au cas contraire, les dénoncer. Nous allons produire des émissions, notamment des magazines, produire et diffuser également des messages d'éveil, messages d'éducation.
A rappeler qu'une vingtaine de journalistes des studios Tamani ont déjà bénéficié le 16 octobre dernier de la première phase de cette formation.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale, un motocycliste a échappé à une tentative d'assassinat hier à Fafa-Gourmand dans le cercle d'Ansongo. Selon des sources locales, c'est aux environs de 21h que des bandits armés ont tiré sur lui. Pris de panique, il s'est enfui, laissant sa moto qui a été complètement calcinée. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré. Ce soir, vous allez parler de quel sujet?
Oui, bonsoir Assetou Kanté. Le grand dialogue de ce soir est délocalisé à Sikasso et le thème porte sur comment faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens sur les corridors de Sikasso. Nos invités sont au nombre de 4 personnes. Siaka Ousmane Koulibaly du syndicat des transporteurs, lieutenant-colonel Isiaka Diakité, commandant de légion de la gendarmerie de Sikasso, major Sidiki Sangaré du 2e arrondissement de la police de Sikasso et Saliou Guiro, spécialiste du transport et expert en facilitation du commerce.
Merci et très bon débat. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Reste à notre écoute. Dans un instant, la question A.